Demain dépend de nous. Demain dépend de nous. Demain dépend de nous.
Demain dépend de nous. Hein.
Nous terminons l'émission Merci. Tournée vers le futur.
Et maintenant, c'est Gaël que nous accueillons avec Radio Cartable sur Radio Libertaire. Et nous remercions beaucoup les auditeurs qui nous ont supportés. Et puis les gens présents, Nathalie Solence, Aruna qui a failli être là. Éric Guilton, merci beaucoup Éric.
Merci de m'avoir invité.
Merci Patrick merci. Kipper au téléphone, c'est pas toujours facile, mais c'était un plaisir de t'entendre. Et merci Alain. Voilà.
Et merci Claude.
Voilà. Eh bien, bonjour Gaël. Et puis, vive
et
Radio
vive
Cartable.
Radio Cartable, en fait, tu vois.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry. Ensuite, nous écoutons l'invitation des élèves du collège Molière.
Et vous savez ce qui va se passer le 9 juin ?
Non.
Qu'est-ce qu'il y aura ?
Il y a une fête au collège.
Oh, une grande fête de la lecture.
Oui, et tout le monde est invité.
Il y aura Jules.
Non, mais il y aura des élèves de l'école du secteur des CP, des CM1, CM2 et même des maternelles.
Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ?
Il y aura plein d'activités, des ateliers, des jeux de lecture.
Vous avez préparé quelque chose, vous ?
Oui, nous, on a lu des histoires aux maternelles et on les a aidés à faire des dessins qui seront exposés.
Trop bien, mais il n'y a pas que des lectures en français. Nous, on va lire en anglais.
Eh, la lecture, ce n'est pas que des histoires. On peut lire pour découvrir et apprendre. C'est ce qu'on fera en science.
Moi, j'aime bien la poésie. Ça me fait rêver, imaginer, on peut jouer avec les mots.
Et nous, on a appris à utiliser des micros de radio cartable pour faire un reportage sur la fête.
Ne le dites pas, mais il y aura même un souvenir à créer soi-même à l'aide de la recyclerie La Pagaille.
Ce sera génial.
Ouais ! N'oubliez pas, la fête de la lecture, c'est mardi 9 juin.
Venez nous rejoindre pour
lire, écouter, découvrir, inventer, rêver.
Créer,
vous amuser,
passer un moment inoubliable de rencontre et de partage.
On a hâte de vous accueillir.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles.
Débat, c'est intéressant ou pas ?
Bonjour,
c'est l'école Gabriel Péri,
de moyenne section et de grande section.
On a étudié la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale.
Quand il y a la guerre,
on perd des gros et des terres et quoi?
De la sauce à maison.
Et là, il est mort.
On a réfléchi à ce que ça veut dire la paix.
La paix, c'est plus être méchant.
Et la paix, ça veut dire de dire pardon.
Ça représente la gentillesse.
C'est l'amour.
Il faut pas se taper, il faut pas se mordre.
Il faut pas être méchant les uns les autres.
Mais fais les canelas.
C'est les copains, les copines.
Oh. La paix, ça représente la douceur sur les gens.
Il ne faut pas menacer de mort, c'est le drapeau blanc. Le drapeau blanc, c'est le drapeau pour faire la paix.
C'est jouer avec les copains et les copines et jouer avec tout le monde.
C'est les fleurs, les cœurs, c'est s'offrir des cadeaux.
Il faut se protéger.
Avec nous ?
Eh oui, mais qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu ?
La géométrie youpi de Radio Cartable.
Bonjour, je m'appelle Jana.
Je m'appelle Félix.
Nous sommes en CM2
dans l'école Joliot-Curie B de Ivry-sur-Seine.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un programme de construction.
Matériel : crayon, gomme, règle, équerre, compas. Programme numéro 1.
Trace un carré A, B, C, D de 10 cm de côté.
Je répète.
Trace un carré A, B, C, D de 10 cm de côté.
Place E, milieu de AB. F, milieu de BC. G, milieu de CD. Et H, milieu de DA.
Je répète.
Place E, milieu de AB. F, milieu de BC. G, milieu de CD. Et H, milieu de DA.
Trace le carré E, F, G, H.
Je répète.
Trace le carré E, F, G, H.
Trace les diagonales HF et EG.
Je répète.
Trace les diagonales HF et EG.
Place le point O à l'intersection des diagonales.
Je répète.
Place le point O à l'intersection des diagonales.
Place I, milieu de EH.
Je répète.
Place I, milieu de EH.
Trace un cercle de centre O et de rayon OI.
Je répète.
Trace un cercle de centre O et de rayon OI. Trace un arc de cercle de centre G et de rayon GC à l'extérieur du carré.
Je répète.
Trace un arc de cercle de centre G et de rayon GC à l'extérieur du carré.
Renouvelle l'opération avec H, F et E.
Je répète.
Renouvelle l'opération avec H, F et E.
Merci de nous avoir suivis.
La géométrie youpi de Radio Cartable.
Bonjour, je m'appelle Naïla.
Bonjour, je m'appelle Tania. Nous sommes en CM2B. Nous allons vous proposer le programme de construction numéro 2. Programme de construction numéro 2, la switch.
Trace un rectangle ABCD de longueur 8 cm et de largeur 4 cm. Je répète. Trace un rectangle ABCD de longueur 8 cm et de largeur 4 cm.
Trouve le milieu de DC, nomme le J et trace le milieu de AB, nomme le I. Je répète, trace le milieu de DC, nomme le J et trace le milieu de AB, nomme le I.
Relie les points A et J, J et B, D et I, J et I, C et I. Je répète, relis les points A et J, G et B, D et I, J et I, C et I.
Marque le point E au milieu de AJ et marque le point F au milieu de CI. Je répète, marque le point E au milieu de AJ et marque le point F au milieu de CI.
Trace les diagonales du losange I, F, J, E. Je répète, trace les diagonales du losange I, F, J, E.
Nomme Z le point d'intersection de EF et IJ. Je répète, nomme Z le point d'intersection de EF et IJ.
Trace un cercle de centre Z et de rayon 2,7 cm. Je répète, trace un cercle de centre Z et de rayon 2,7 cm.
Trace le point K au milieu de AD. Je répète, trace le point K au milieu de AD.
Trace le point L au milieu de BC. Je répète, trace le point L au milieu de BC.
Trace un demi-cercle de centre L et de rayon LB en rejoignant B et C. Je répète, trace un demi-cercle de centre L et de rayon LB en rejoignant B et C.
Attention, trace bien le cercle en dehors du rectangle ABCD.
Trace un demi-cercle de centre K et de rayon AK. Je répète, trace un demi-cercle de centre K et de rayon AK.
Toujours en dehors du rectangle ABCD.
Rejoins A. AD, je répète, rejoins A, AD.
Pour décorer les manettes de la Switch, dessine des joysticks en forme de mini-cercle et de carré et triangle.
Et maintenant que vous avez fini votre Switch, vous pouvez la colorier.
La géométrie youpi de Radio Canada.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Mélia.
Bonjour, moi c'est Nour.
Bonjour, moi c'est Amy.
Nous sommes en la classe de 5e et nous sommes des éco-motivés du Collège Molière. L'année dernière, nous avons décidé d'interviewer les femmes pour qu'elles nous parlent d'elles et de leur métier. Pour en dire un peu plus de la Journée des femmes, c'est une journée qui est célébrée depuis 1977 à peu près. Et cette journée représente la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle rend hommage aux combats menés par des générations de femmes pour obtenir des droits fondamentaux comme les droits de vote, etc.
Bonjour madame, merci d'être près de nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation.
Tout d'abord, nous vous laissons vous présenter et nous indiquer votre métier. Pouvez-vous nous décrire les fonctions de votre métier ?
Bonjour, donc je m'appelle Nathalie et je suis une des deux co-directrices de l'association Rejouer. Donc les fonctions d'une co-directrice dans une association, en tous les cas chez Rejouer. On est chargé d'organiser le travail de l'ensemble des équipes de façon à faire tourner l'association. Et nous, on a plusieurs missions. Une mission environnementale qui permet de remettre à neuf des jouets d'occasion. Donc on doit organiser le travail pour que les jouets soient collectés, remis à neuf et vendus. On a une mission aussi d'insertion socio-professionnelle et donc on accompagne des personnes qui sont très éloignées du marché du travail vers l'emploi. Et donc pour ça, on doit recruter ces personnes-là, les former, les accompagner et les amener jusqu'à cette formation et cet emploi. On doit aussi, bien sûr, s'occuper de tous les salariés permanents de l'association, ceux qui restent là, qui ne sont pas juste de passage le temps d'un parcours, pour les accompagner aussi dans leur développement professionnel et leur permettre d'être au plus près, du coup, des missions qu'ils ont. Donc en gros, on va organiser, prioriser, gérer l'ensemble de l'activité.
Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
Alors, quand on est sur une co-direction ou une direction, on n'a pas vraiment d'horaire établi. Moi, généralement, j'arrive dans l'association vers 8h15 et je pars vers 17h30, 18h. Mais en fonction des besoins, je vais avoir un rythme de travail qui change. Par exemple, ce week-end, je vais travailler le dimanche exceptionnellement pour participer à une activité un peu exceptionnelle. On est là aussi pour renforcer quand il y a des besoins.
Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ?
Sur des métiers de direction, il y a plusieurs qualités attendues. Savoir prioriser, savoir organiser, savoir gérer, animer une équipe avec une certaine force de conviction, puisqu'il faut pouvoir porter un projet et donner envie aux autres de réaliser leur métier du mieux qu'ils peuvent et leur donner les moyens de le faire. Moi, je trouve qu'une des qualités premières, c'est aussi une qualité d'écoute, pour pouvoir comprendre, entendre le besoin de chacun et apporter des réponses adaptées à chacun. Il faut aussi savoir, de temps en temps, se battre, entre guillemets, avec des institutions, des partenaires. Nous, par exemple, on va chercher de l'argent pour faire vivre l'association. Et donc, il faut convaincre pour expliquer en quoi on a besoin de ce soutien, etc.
Qu'est-ce que ça vous apporte, ce métier ? Quelles sont vos sensations ?
Moi, ce que j'aime avant tout, c'est accompagner des équipes, de voir une réussite collective, ou même parfois, si ce n'est pas pleinement une réussite, en tous les cas, le plaisir de l'avoir fait ensemble, d'avoir fait du mieux que l'on pouvait, au service d'une cause. C'est d'accompagner plus spécifiquement les femmes, et notamment celles qui ont des enfants et pour qui trouver du travail n'est pas très simple, les accompagner vers l'emploi en leur donnant confiance. Et donc ça, c'est vraiment très, très satisfaisant.
Quel a été votre parcours et quelles ont été vos études pour intégrer ce métier ?
J'ai démarré par un bac économie. J'ai suivi avec un DUT de gestion, donc une formation en 2 ans assez généraliste, une maîtrise de gestion. J'ai travaillé ensuite pendant 20 ans dans le secteur de ce qu'on appelle les ressources humaines. Donc là, j'ai fait du recrutement, j'ai géré justement les carrières de salariés dans un secteur classique lucratif. Puis j'ai eu envie de changer de type d'entreprise et je me suis formée notamment à l'économie sociale et solidaire et à ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Donc j'ai refait un bac plus 5, un master 2 dans ce secteur-là, alors que j'avais plus de 40 ans, hein, donc il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école. Et donc là, j'ai refait cette formation en alternance, pour moi aussi apprendre de nouveau sur le terrain, et puis pour être prête à prendre ce poste de direction.
Quel est votre salaire ? Est-ce suffisant pour subvenir à vos besoins quotidiens ?
Alors, chez Rejouer, je suis à un salaire d'un peu plus de 4000 euros brut. Donc oui, ça me permet de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. C'est un salaire qui est très en deçà de ce que je pourrais avoir si je travaillais dans le secteur lucratif. Par rapport au niveau de responsabilité que l'on a sur ces postes-là, quand on gère une structure où il y a 70 personnes, qu'on doit être disponible et qu'on est responsable de l'emploi de toutes ces personnes-là. Mais ça me permet de subvenir à mes besoins et ça, c'est déjà très important.
Quels sont vos horaires de travail en tant que directrice de Rejouer ?
Il n'y a pas d'horaire vraiment marqué. On fait en fonction du besoin. On doit être là quand il y a besoin. Donc voilà, moi j'arrive à peu près vers 8h le matin, un petit peu après, et je pars vers 17h30, 18h, plus si nécessaire. Et s'il faut travailler exceptionnellement le soir. Hier soir, j'avais le conseil d'administration, ça terminait à 20h. Et puis dimanche, je travaille toute la journée parce qu'il y a un événement.
Est-ce que c'est le seul métier que vous avez envisagé dans votre vie ?
Alors moi, au départ, je souhaitais travailler vraiment dans les ressources humaines. Et même avant ça, j'avais envie d'enseigner. Parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'est travailler en équipe, à accompagner les gens dans leur parcours. Je suis arrivée sur ce poste de direction, plus, j'allais dire, parce que c'était l'évolution normale et que, avec mon parcours, j'avais cette possibilité d'accompagner sur ces postes-là. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'accompagnement des personnes, quel que soit le poste. Voilà.
Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant. Bonne continuation à vous et bonne journée.
Merci à vous.
Reportage dans mon cartable. dans mon cartable.
Radio Libertaire 89.4, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
On reste en maternelle encore quelques instants pour l'atelier philo avec les élèves de l'école Joliot-Curie qui vous parlent de leur plus grande joie.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Camille.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélina.
Je m'appelle Adrien.
Je m'appelle Simon.
Je m'appelle Rania.
Je m'appelle Idriss.
Je m'appelle Lamia.
Moi c'est Jean-Claude.
Je m'appelle Aya.
Je m'appelle Adam.
Je m'appelle Ilias.
Je m'appelle Mélina.
Je m'appelle Valentin.
Je m'appelle Léo.
Je m'appelle Lenny.
Je m'appelle Mohamed.
Je m'appelle Adam.
Je m'appelle Jean.
Je m'appelle Ami.
Je m'appelle Zénab.
Je m'appelle Irles.
Nous sommes des écoliers
de l'école maternelle Joliot-Curie.
Nous sommes des grands.
Nous sommes dans la classe de Gabriel.
Aujourd'hui, on va parler des émotions.
Des émotions, Adam ?
Mais lesquelles ?
Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui nous rend
heureux.
C'est jouer au toboggan.
Moi, je suis content quand je joue au Power Rangers.
Ça me rend heureuse quand je vais aller au toboggan.
Moi, qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est de jouer dans la cour.
Moi, ce qui me rend joyeuse, c'est d'aller voir mon papy et ma mamie et voir toutes ces tortues.
Il y en a 10.
Et ben moi, ce qui me rend joyeux, c'est de apprendre des choses à l'école.
Moi, ce qui me rend heureux, c'est de regarder que la tortue marcher partout. J'en ai qu'une et elle s'appelle Potter.
Ce qui me rend heureux, c'est d'aller avec ma maman au parc de Cormeilles avec le vélo.
Ce qui me rend heureux, c'est de jouer à cache-cache.
C'est de courir et manger les McDo à la maison et regarder la télé.
Et ben, ce qui me rend heureux, c'est les et j'ai de jouer à ça.
Ce qui me rend heureux, c'est d'aller au cinéma avec la classe.
C'est de jouer à la console.
Moi, ce qui me rend heureux, c'est de faire la course avec Shekna. Shekna, c'est mon copain.
Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller au cinéma avec le maître. J'ai vu les vents dans les roseaux.
Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller au parc et recroiser Jean avec son épée Star Wars et mon épée Star Wars bleu et de jouer avec l'enfant à Darth Vader.
Moi, j'aime bien être content.
Qu'est-ce qui te rend heureux ?
Moi, ce qui me rend heureux, c'est de lire des bandes dessinées.
Quelle bande dessinée ?
J'aime bien les aventures d'Astérix.
Quel album d'Astérix tu préfères ?
C'est l'album Le Devin que je préfère.
Un peu de philosophie, chers auditeurs, on écoute tout de suite un nouveau numéro de Radio Philo. proposée par les CM1B de l'école Anton Makarenko et les résidents de la maison Tiertain. C'est à eux.
Radio Philo.
Radio Philo.
Eh oui, Radio Philo.
C'est quoi grandir ?
Grandir.
C'est quoi l'amour ? Bah oui, c'est vrai ça. C'est quoi l'amour ?
Et un ami, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est un ami ?
Être libre.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est quoi le bonheur ?
La peur sert-elle à quelque chose ? Où va-t-on quand on est mort ?
Qu'est-ce qui est beau ?
Mais au fait,
qu'est-ce qui me rend heureux ? Est-ce que c'est bien d'être toujours d'accord ?
Est-ce que l'on peut mentir ?
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo.
Parce que la philo, ça n'est pas que pour les grands.
Mais au fait, c'est quoi vivre ensemble ?
Le vivre ensemble, c'est respecter les autres, être joyeux, être unis, partager ses envies, de s'entraider et de respecter.
Alors, vivre ensemble, c'est se respecter, partager des activités qui sont pas tout à fait les nôtres, mais qui sont celles de l'autre groupe. Et voilà, donc c'est être, prendre du bon temps et être heureux ensemble. Voilà.
Vivre ensemble, c'est vivre en communauté, se respecter et ne pas lâcher.
Vivre ensemble, c'est rester en communauté et se respecter avec plein de personnes.
C'est accepter à tout moment les uns et les autres avec les disputes, les rires et tout. Ça peut être facile. Je sais que pour moi c'est facile, mais ça peut être facile, à condition que tout le monde ait cette envie-là. Parce que je crois qu'on ne peut pas rester séparés. Et c'est le partage, les idées de tout le monde qui rentrent en ligne de compte, aussi bien des vieux que des jeunes.
S'entraider, partager sa joie ou sa colère, si ça peut nous aider.
Selon les dires d'une personne absente, Marcel. C'est s'accepter les uns les autres. C'est aussi vivre de la bonne manière avec des personnes de cultures différentes. Daniel. C'est vivre avec la famille, les amis, les respecter et respecter leurs idées et les origines de chacun. Françoise.
Est-ce que l'on choisit de vivre ensemble ?
On ne choisit pas, c'est obligé de vivre ensemble. Vivre en communauté, par exemple, si on vit en communauté, ça peut créer des alliances.
Parfois, on peut choisir et parfois non, parce que si, par exemple, tu as envie d'être en communauté, bah, tu peux aller voir des personnes et être son ami. Si tu n'as pas envie d'être en communauté avec des gens, bah, tu es obligé de rester chez toi et tout seul et tu t'ennuies un peu.
Oui, moi, plutôt que de communauté, qui a beaucoup été évoqué maintenant, je parlais plutôt de société. On n'est pas obligé de vivre en société, mais de fait, on vit en société. C'est pas une volonté quelque chose, ça se fait tout seul. Et c'est compliqué cette question. Ça nécessite beaucoup de réflexion.
Communauté et société. Est-ce que c'est la même chose ?
La différence entre société et communauté, c'est communauté, c'est vivre ensemble, alors que société, c'est un peu comme vivre ensemble, mais c'est pas vraiment obligatoire, c'est un choix qu'on peut faire.
La société et l'environnement dans lequel on vit, Et la communauté, à mon avis, c'est un groupe de gens, d'individus, qui désirent vivre selon les mêmes principes.
Vivre ensemble ? Mais où ça ?
Un endroit où on vit en communauté, par exemple à la maison, en classe.
Les lieux où on est obligé de vivre ensemble, il y a déjà la famille, le travail. C'est un sujet beaucoup plus philosophique qu'on le pense, parce que les gens ne sont pas tous disposés à partager. Et à partir du moment où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de vie possible.
Faut-il des lois pour vivre ensemble ?
Il y a des endroits où il y a des règles qu'on doit respecter, même s'il y a des personnes qui ne les respectent pas, parce que c'est des lois, et ces lois ne changent pas, et puis on ne peut rien y faire.
S'il n'y a pas de loi, bah, on ne se respecterait pas, tout le monde se frappe, tout le monde fera n'importe quoi. Et s'il y a des règles, tout le monde peut apprendre à se connaître, tout le monde peut être joyeux.
Des fois, il y a des lois qui peuvent servir, mais des fois, il y a des lois qui peuvent être un peu énervantes parce que c'est pas nous qui les décidons et c'est un peu énervant parce que nous aussi, on aimerait bien faire partie des règles et pas qu'on décide pour nous parce que ça, c'est très énervant, surtout envers les enfants.
Ça n'est pas facile de vivre ensemble. Que peut-on faire ?
Si on n'arrive pas à vivre ensemble, parfois ça se bagarre, parfois ça s'insulte.
Parfois à l'école, il y a des personnes qui se frappent. À la place de se frapper, par exemple, dès qu'on a un problème, on va voir les maîtresses ou les maîtres. Comme ça va régler un peu le problème. Et comme ça, on va mieux se connaître, par exemple, les deux personnes qui se sont disputées vont mieux se connaître maintenant. Par exemple, une fois par semaine, on peut faire une petite activité ensemble et comme ça peut nous faire apprendre comment on peut se connaître.
Quand nous sommes nouveaux à l'école, c'est dur à faire des amis.
C'est difficile de se faire des amis parce que on connaît personne.
Comme on ne connaît pas, on est nouveau, bah c'est dur de faire le premier pas vers quelqu'un parce qu'on a peur après qu'une personne peut nous repousser. Et ça peut faire mal. Aussi, des fois, même si on a des choses qu'on n'aime pas sur d'autres personnes, vaut mieux les garder pour nous-mêmes parce qu'on sait qu'après, ça peut faire mal à une personne en disant ces mots. Donc c'est pour ça qu'on préfère les garder pour nous-mêmes. Comme ça, il n'y a pas de différence les uns et les autres. On s'aime tous et voilà.
Par exemple, quand t'as un mot qui n'est pas bien dans ta tête, moi, je fais toujours que ça part d'une oreille et ça ressort de l'autre. Comme ça va m'aider à me calmer. Mes deux frères, c'est mes frères, je les adore, mais c'est pas grave s'ils me cassent les pieds.
Un atelier philo réalisé par les petits correspondants du théâtre. Or, dans cet atelier, il est question d'un motard qui semble être méchant. Mais en réalité, ce motard a un cœur doux. Il ne faut pas se fier aux apparences.
Moi, je pense qu'il a été harcelé lorsqu'il était plus jeune. C'est pour cela qu'il s'habille en noir, en cagoule, pour faire peur aux gens. Comme ça, il n'ose plus l'embêter.
Ou alors, c'est parce que lorsqu'il était petit, il était tellement gentil, tellement drôle, qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient. Tout le monde venait lui parler, lui raconter des histoires. Alors, en grandissant, il s'est habillé comme ça, pour être un peu tranquille.
Il aurait suffi qu'il éternue. En ce moment, ça suffit à faire peur à tout le monde.
Ok, ok, les amis, il est temps d'écouter ce que nos camarades ont à dire de tout cela.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
On va faire un petit voyage immobile. Immobile et silencieux. Ça veut dire que silencieux, il n'y aura pas de bruit, pas de gestes et pas de paroles. On va redresser son dos pour être assez droit, mais détendre les épaules. On va démarrer. Est-ce que vous savez pourquoi on est réunis aujourd'hui ici? Oui.
Pour faire un atelier philo.
Oui. Est-ce que vous savez ce qu'est un atelier philo? Oui.
C'est un atelier philosophique.
On fait une sorte de débat, oui. D'accord. Et on parle de quoi en général dans un atelier philo?
De la vie.
De la vie. Des choses de la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que tu peux donner un exemple des choses de la vie, par exemple?
De comment on est né et de pourquoi on est et pourquoi on meurt.
Oui, d'accord. Donc la naissance, la vie, la mort. Oui. D'autres thématiques encore. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui.
L'école.
On pourrait parler de l'école. Oui. On pourrait dire à quoi ça sert l'école. Hein? Bien sûr. Encore? Encore une idée? Excuse-moi.
La différence.
On pourrait parler de la différence. Voilà. Alors, on a vu, probablement ensemble, parce que c'était le même jour et que moi j'étais dans la salle, un spectacle au mois de janvier qui s'appelait Moi Canard. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Oui. Bon. Et on va parler donc autour de ce. À partir de ce spectacle, on va tirer un thème de ce spectacle et on va en discuter ensemble, on va en débattre. On va parler des différences. Quelles différences? Oui.
La couleur de peau.
Par exemple, comme différence, il y a la couleur de peau. Oui. Oui.
Le style vestimentaire.
Alors là, on est dans des différences qu'on voit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des différences qu'on ne voit pas?
La nationalité.
La nationalité.
Nos choix.
Nos choix.
Les religions.
La religion.
Par exemple, des personnes peuvent croire en une chose que d'autres ne croient pas. Et si la personne dit « Ah, mais tu crois ça, mais en fait, t'as tort », bah non, elle croit ce qu'elle veut et toi tu crois ce que tu veux.
Mmh, d'accord. La façon de penser. Oui.
Une personne qui peut être différente par rapport peut-être qu'elle a une maladie par rapport neurologique et on ne va pas aimer cette personne parce qu'elle n'est pas comme les autres par rapport à cette maladie-là. Homosexuel.
Oui.
Leur envoie, pardon, ils ont rien fait. Ils préfèrent, je sais pas, enfin, homosexuel, c'est quand
tu aimes la personne de ton pied, de ton sexe.
Oui, mais il y a garçon et fille.
C'est le même mot pour les deux. Ah, d'accord, hein, c'est pour le mot au féminin ou au masculin. Les filles, comment
c'est
plutôt fille, oui.
Les intelligents, les moins intelligents.
Ouais. Alors, du coup, ça, comment on fait pour penser que quelqu'un est plus ou moins intelligent?
Quand par exemple, il dit tout le temps les bonnes choses ou qu'il a toujours raison.
Comment on sait que c'est une bonne chose? Parce que autant à l'école, si on donne une addition, bon, bah, effectivement, hein, il n'y a qu'une bonne réponse. Mais qui va décider si c'est une bonne réponse?
On va décider que c'est une bonne réponse parce que c'est comme ça. Par exemple, si on demande de conjuguer le verbe « avoir » et tu le conjugues bien, bah, c'est une bonne réponse parce que c'est comme ça, c'est un petit peu le français ou l'anglais, c'est comment les choses sont faites.
Vous êtes d'accord?
Non. Et il n'y a pas de personne plus intelligente que l'autre. Peut-être que quelqu'un peut être intelligent plus à l'école, peut adorer plus l'école, donc être mieux, voilà. Travailler mieux là. Mais l'autre personne, elle, peut adorer le sport ou les activités manuelles. Donc il n'y a pas vraiment de personne plus intelligente que l'autre. C'est plus les personnes préfèrent leur choix, enfin, les personnes préfèrent des matières, donc ils se concentrent plus sur les matières, sur cette matière-là, et essayent de pas trop se concentrer sur les autres matières.
Il y a aussi des différences d'âge.
Oui.
Par exemple, quand t'es dehors, tu vas pas l'aimer parce qu'il est plus vieux que toi et tu veux pas de plus vieux que toi, tu veux des gens de ton âge. Ou même des fois être jeune, des fois. Par exemple, il y a des gens, ils ont 14 ans, ils voudront pas prendre des gens qui ont 6 ans parce qu'ils sont trop jeunes.
Moi, je voulais dire que j'étais pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a certaines personnes peuvent penser ça, mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi c'est pas la différence d'âge qui va te dire si t'aimes ou t'aimes pas la personne.
Comment ça s'appelle quand on juge sur ce qu'on voit comme ça? Oui.
Un préjugé.
Ça s'appelle un préjugé. Vous êtes d'accord ou vous avez un autre mot?
C'est quand on voit une personne, on se dit qu'on l'aime pas parce qu'en jetant un coup d'œil sur cette personne, on va se dire elle est méchante, elle est gentille, il faut pas traîner avec elle, il faut traîner avec elle.
Voilà, enfin, on commence à avoir des idées sur la chose. Oui.
C'est quelqu'un, il est habillé comme quelqu'un qui est un méchant, par exemple, quelqu'un qui... Mais alors qu'il est hyper gentil. Vu ses vêtements, on peut penser qu'il est méchant alors qu'il a un cœur doux. Oui, il est doux, il est gentil, il est attentionné. Oui.
Alors justement, ça c'est un préjugé. Est-ce qu'on peut essayer de le préciser? Qu'est-ce que ce serait ce préjugé de quelqu'un qui est habillé comme un méchant? Est-ce que vous avez des idées autour de ça? Qu'on voit un peu... Alors vas-y.
Il porte une cagoule.
Il porterait une cagoule.
Des armes gangsters.
Là, c'est évident que ça n'est pas bien intentionné.
Bah, par exemple, ils portent des vestes en cuir.
Vestes en cuir.
Tout en noir.
Tout en noir. Le méchant.
Il peut porter une barbe et avoir une moto, un petit peu aussi.
D'accord.
Bah, en fait, parce que par l'apparence, bah, ça peut laisser croire. Par exemple, on va avoir tendance dans la rue à aller... Par exemple, il y a une personne qui a des gros muscles, qui a une veste en cuir, une moto et... Une balade. Voilà. Et ben, en fait, on va avoir tendance à dire qu'il peut être dangereux ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
On accuse une personne.
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait?
C'est un préjugé.
C'est un préjugé, ça, on l'a dit.
On n'est pas éduqué. C'est qu'on n'est pas éduqué. Long time, on criera en justice. Long time, on criera en justice. On criera en justice. Long time, on criera en justice. Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré.
Qu'est-ce que ça a eu comme incidence et comme conséquence cette différence? C'est allé loin pour Canard, vous vous rappelez cette histoire, hein? Et qui, oui. Comme vous disiez un peu, on est un peu tous parfois le vilain petit canard, hein?
On le rejette,
oui.
Critique.
On le critique, oui, c'est vrai, il est souvent attaqué et critiqué.
On peut parler mal, on peut ne pas le respecter.
On peut ne pas le respecter, oui.
Il y a des disputes après.
Ça peut donner lieu à des disputes.
Personne ne lui parle.
Personne ne lui parle, donc ça aussi c'est une forme de rejet, soit par l'insulte, soit on laisse la personne de côté. Hein, oui.
La personne qui a reçu une critique, elle va être blessée.
Et du coup, les conséquences, c'est effectivement des blessures intérieures, hein, qu'on ressent, d'accord?
Mais il faut accepter les différences, parce que des fois, si on ne les accepte pas, on va le rejeter, on va faire tout ça. Et la personne, quand on va être pressée, des fois, elle va vouloir se suicider, des fois. Ça arrive, des fois. Hein. Ça arrive.
Elle va vouloir céder?
Se suicider. Parce que... Ça arrive des fois au collège parce que toi tu es différent, on va te rejeter, on va plus te parler, on va te on va te dire des cages, on va te parler mal, et après, bah, toi, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi faire pour empêcher ça, bah, ça peut mener au suicide.
Oui, c'est ce que tu dis. On parlait de la blessure, hein, ça blesse, mais après, le niveau au-dessus, c'est que ça peut aller très très loin et que tu peux perdre l'envie de vivre, hein, quelque part, si c'est trop violent. C'est ça que tu veux dire?
Oui, oui, c'est ça, j'en train de dire.
D'accord, bien sûr. C'est, oui. Donc, tu es en train de décrire la violence que c'est d'être rejeté, hein, c'est ça?
Oui.
D'accord, merci.
Ça s'appelle le harcèlement.
Là, vous parlez de choses très, très graves, hein, quand même, qui se passent à cause des différences. Et est-ce qu'on peut, et que vous avez l'air d'en entendre parler, mais est-ce qu'on peut réfléchir aussi à, est-ce que la différence, ça entraîne toujours des problèmes et des soucis?
En fait, ça ne devrait pas poser problème, les différences. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on est. On est ce qu'on est et on ne peut pas le changer.
Moi, j'ai une copine qui n'est pas de ma même couleur et pour moi... Je m'en fiche, ça n'a aucun rapport. Le temps qu'on est amis, qu'elle n'est pas méchante avec d'autres amis ou même avec moi, c'est pas sa couleur, ses vêtements, sa nationalité ou tout ce qu'on veut qui peut la différencier de nous. Moi, je m'en fiche.
Radio Philo.
Radio Philo.
Eh oui, Radio Philo.
C'est quoi grandir?
Grandir.
C'est quoi l'amour? Bah oui, c'est vrai ça. C'est quoi l'amour?
Et un ami, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est un ami?
Être libre.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Quoi, le bonheur?
La peur sert-elle à quelque chose? Où va-t-on quand on est mort?
Qu'est-ce qui est beau?
Mais au fait, qu'est-ce qui me rend heureux?
Est-ce que c'est bien d'être toujours d'accord?
Est-ce que l'on peut mentir?
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo. Parce que la philo, ça n'est pas que pour les grands.
C'est quoi la peur?
Bah, la peur, ça me fait peur.
La peur, c'est quand on voit un monstre.
C'est quand on a peur et qu'on se cache des fois sur le lit pour pas que quelqu'un nous trouve si on a peur.
Quand il y a un orage le soir et qu'on est tout seul.
La peur, c'est quand on fait des cauchemars.
La peur, c'est par exemple quand on est timide ou par exemple qu'un ami ne viennent pas.
Si quelqu'un se déguise en monstre et qu'on est petit, on a peur et on a le cœur qui bat vite.
Avoir peur, ça veut dire on fait des cauchemars. Après on ouvre les yeux, on croit qu'on a un monstre devant nous.
On va dans la chambre des parents et après on dort avec eux.
Moi, je fais des cauchemars, je pleure et j'appelle ma maman et elle n'a pas peur.
Et qu'est-ce que ça fait, la peur?
Quand j'ai peur, je me sens bizarre.
Bah, quand j'ai peur, moi j'ai chaud à la tête.
J'ai le cœur qui bat.
Quand j'ai peur, je respire vite.
Quand j'ai peur, j'ai le cœur brisé.
Quand j'ai peur, mon cœur, mes organismes se cachent sous leur couverture.
Mais au fait, qu'est-ce qui vous fait peur ?
J'ai peur des loups.
Parce qu'ils mangent les enfants.
Il y a des loups qui sont méchants, il y a des loups qui sont gentils.
J'ai peur des renards.
J'ai peur des loups-garous.
Quand j'ai peur des loups, et en fait, c'est les voisins qui font du bruit. Et moi, je crois pas que c'est les voisins. Donc, du coup, je me cache vite en dessous de ma couette.
Moi, j'ai peur du loup. Alors que ça n'existe pas, le loup, dans mon pays.
Moi, j'ai peur des fantômes.
Et j'appelle ma maman et ma maman me protège les fantômes.
J'ai attaqué le fantôme.
Quand quelqu'un il se déguise en fantôme, bah alors les autres ils ont peur.
On croit qu'il y a un fantôme, on dirait, mais non.
Et bah ma soeur, elle croyait que c'était moi le fantôme et aussi elle a eu peur, mais c'était pas moi le monstre. Et moi je dormais encore. Il n'y avait même pas de monstre.
Moi, j'ai peur du noir.
Quand on est dans le noir, il y a une personne qui fait ouh. Après, on a peur.
Quand on dort dans le noir, c'est comme Halloween. Quand on dort, ben on attend des musiques qui est des fantômes. Et après, on va voir dehors. Et après, il y a des gens qui font boue.
Moi, j'aime pas être dans le noir. Et j'ai dit à ma maman de m'acheter une veilleuse. Et maintenant, j'ai plus peur du noir plus que j'ai une veilleuse.
J'ai peur des cauchemars.
J'ai peur des sorcières.
Et il a peur des gros monstres.
Quand on a peur, on voit un extraterrestre, on va se cacher.
J'ai peur des jacques, d'un Ansel et Gretel.
J'ai peur des voitures qui se transforment en monstres.
Moi, j'ai peur des dinosaures, des éléphants.
Quand on a peur, bah, on peut prendre un doudou qu'on aime bien. Et pour pas aller dans le lit de notre maman et notre papa,
on peut allumer une lampe.
Quand on allume la lumière, et ben nos parents viennent voir et ils éteignent la lumière.
Je appelle papa et maman en criant et après ils viennent. Et après ça me rassure parce qu'ils me lisent une histoire.
Avoir peur, ça veut dire qu'on se sent pas bien, mais avec notre cerveau, ben on se dit qu'on peut pas avoir peur parce que des fantômes, ça n'existe pas des fantômes.
Moi j'ai pas peur.
Moi c'est pas peur.
Radio Philo.
Radio Philo.
Eh oui, Radio Philo. C'est quoi grandir ?
Grandir ?
C'est quoi l'amour ? Bah oui, c'est vrai ça, c'est quoi l'amour ?
Et un ami, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est un ami ? Être libre.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est quoi le bonheur ?
La peur sert-elle à quelque chose ? Où va-t-on quand on est mort ?
Qu'est-ce qui est beau ?
Mais au fait, qu'est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que c'est bien d'être toujours d'accord ?
Est-ce que l'on peut mentir ?
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo.
Radio Philo.
Parce que la philo, ça n'est pas que pour les grands.
Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Jacques Solomon.
Je m'appelle Tom.
Et moi Ryan.
Aujourd'hui, nous avons enregistré les grandes sections de maternelle de notre école.
Ils nous ont parlé de l'amour.
Et c'est parti !
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes la grande section de la maternelle Jacques Solomon.
Notre maîtresse s'appelle Célima.
Aujourd'hui, on va vous parler de l'amour.
Quand on est amoureux, on a le cœur qui bat très fort.
Quand on est amoureux, on prend un petit déjeuner entre amoureux.
Quand on est amoureux, on fait des bisous sur la bouche.
Quand on est amoureux, on a le cœur léger.
Quand on est amoureux, alors on se fait des câlins.
Quand on est amoureux, on est tout nu.
Quand on est amoureux, on tremble.
Quand on est amoureux, alors on se fait des dîners ensemble.
Quand on est amoureux, on offre des fleurs à son amoureuse.
Quand on est amoureux, on pense que tout le monde est amoureux.
Quand on est amoureux, ça donne de l'énergie et ça donne du plaisir.
Quand on est amoureux, on a les joues rouges.
Quand on est amoureux, on court après, on se fait des câlins.
Quand on est amoureux, on pleure parce qu'on est content.
Mon papa et ma maman sont amoureux.
Quand on n'a pas d'amoureux, on est triste.
Quand on n'a pas d'amoureux, on a le cœur brisé.
Quand on est petit, on pense déjà à un amoureux.
L'amour, c'est aussi quand nos mamans, elles nous aiment.
Moi, j'aime que ma maman m'embrasse.
On peut se marier quand on aime bien quelqu'un.
L'amour, ça fait du bien.
Voilà, c'est fini pour notre émission.
On vous dit à bientôt sur Radio Cartable.
Bonne semaine à tous.
Reportage dans mon cartable.
Voilà, c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Le montage a été réalisé par moi, Ryan, par Tom, Panté et Thomas. À bientôt.
Gonflé de sommeil, l'amour. Ce bonheur est sans pareil, l'amour. Nous nous perdons dans le jour. Il n'y a plus rien autour.
cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Bénédicte Bellepoix et à son quatrième roman, Morvan, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Une véritable découverte pour moi et un grand bonheur de lecture. Bénédicte Bellepoix nous relate l'histoire d'un prénommé Morvan, un jeune homme solitaire qui du jour au lendemain quitte sa maison située en Ardèche et son travail d'ouvrier agricole pour jouer son vatou et aller à la rencontre de son destin. Avec ses deux amis, Monica et Giovanni, rencontrés dans une pizzeria au pied du Mont Blanc, il prend la route et s'invente une nouvelle vie. Mais il est temps d'écouter Bénédicte Bellepoix, de tendre l'oreille et d'explorer avec elle d'autres chemins de traverse. Bénédicte Bellepoix, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier Morvan, je crois que c'est votre quatrième roman aux éditions Gallimard. Vous habitez, je crois, à Besançon, vous exercez la profession de sage-femme et vous avez passé votre enfance en Algérie. Suiza, qui est paru en 2019, est votre premier roman. Il a été récompensé par le prix Marcel Aimé, d'ailleurs, ça c'est formidable. Mmh. Le prix Marcel Aimé et le prix des lecteurs de la ville de Brive. Alors, ce roman, moi que j'ai beaucoup aimé, Morvan, au titre un peu trompeur, puisqu'on pense tout de suite à la région du Morvan, même si on va y arriver. Je dirais que c'est presque un roman paysagiste. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, Bénédicte Bellepoix, le roman de la seconde chance? On pourrait dire que c'est un récit d'apprentissage aussi, ce roman Morvan.
Alors c'est surtout un roman de ma seconde vie, parce que effectivement c'est maintenant je suis en retraite de ma profession de sage-femme depuis peu, et maintenant je suis écrivain. J'ai encore du mal à dire ça, hein. Quand on me demande ce que je fais, je dis je suis sage-femme et ça me pose, j'ai ma carrière derrière moi. Autant dire je suis écrivain, j'ai encore du mal. Je pense qu'il me faudra peut-être 10 romans, je sais pas. Quand je pense écrivain, je pense Balzac, et j'ai du mal à ou Giono, et j'ai du mal à me confronter à ces grands auteurs. Donc voilà, c'est plutôt c'est un roman de la seconde chance, bien sûr, comme tous mes romans quasiment. Mmh. Je crois beaucoup en ça. On a une vie qu'on nous a donnée au départ, et puis on peut peut-être des fois en sortir et choisir une autre voie avec les moyens qu'on a. Hein. C'est pas toujours des moyens fabuleux, mais on peut trouver quand même des solutions. C'est-à-dire qu'il y a une ligne toute tracée, très goudronnée, mais on peut prendre des petits sentiers de traverse.
Oui. Alors les sentiers de traverse, je parlais de romans paysagistes tout à l'heure. Vous citez le Grand Maulne. C'est une référence pour vous?
Ah oui, c'est une référence pour moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu ce roman à l'adolescence. J'ai pas tout compris, je crois, à ce moment-là. J'ai pas compris ce que... Il y a des choses, des sous-entendus sur la paternité, etc., que j'avais pas saisi vraiment. Je l'ai relu dernièrement, juste avant justement d'écrire ce roman, et je me suis dit, ah, quand même, c'est fabuleux. Il y a des descriptions de paysages, des descriptions aussi d'émotions, de fraternité que j'avais pas à l'adolescence vraiment compris, je crois.
Alors, dans votre précédent roman, je pense, hein, ou dans l'un de vos précédents romans, vous avez écrit « On ne perçoit pas consciemment comme certaines personnes vous manquent avant de les connaître. On devine juste une fois qu'on les a rencontrées, qu'on ne pourra plus jamais vivre sans elles. » Et c'est vrai que là, ce sont de belles rencontres. Je dirais que il y a un trio, hein, d'amis qui vont se rencontrer. Ils sont très complémentaires. Et c'est aussi, ce roman Morvan est une réflexion sur la rencontre, sur le chemin, sur nos compagnons de voyage.
Et surtout sur les familles qu'on se bricole, quand on n'a pas eu, quand on a soi-même une famille déficiente, je crois aussi beaucoup en ça. J'ai vu beaucoup ça dans ma carrière, des gens qui ont des parents déficients, des frères et sœurs déficients aussi, et qui parfois rencontrent des gens qui ont des fragilités comme les leurs. Alors pas en miroir, hein, parce que quand on a les mêmes fragilités, des fois ça marche pas. Mais quand on a des fragilités qui sont un petit peu différentes, on peut